Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, nous accueillons Malika Paquette.
Bonjour.
Pascal Jacob.
Bonjour.
De retour d'Afrique, nous avons enfin Franck Billot.
Salut.
Et moi-même, Nicolas Lehoux. Le thème de notre émission aujourd'hui sera « La satisfaction de tous les désirs fondamentaux est la seule voie de la réalisation ». Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on précise qu'est-ce que c'est la réalisation, là, parce que je crois que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi. Donc, au premier niveau de la pensée, on comprend bien qu'est-ce que c'est un projet qui est réalisé, c'est-à-dire que c'est un projet qui est fini, qui est terminé. Alors, si on passe au deuxième niveau de la pensée, lorsqu'un être est réalisé, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a atteint, la finalité de ce qu'il s'est donné à être. Un peu comme le Christ. On ne peut pas imaginer un Christ en train d'évoluer. Ou un Bouddha en train d'évoluer, ces êtres sont finis, ils ont terminé ce qu'ils avaient entrepris. Alors donc, c'est ça la réalisation. Alors pour revenir au thème, la satisfaction de tous les désirs fondamentaux est la seule voie de la réalisation. Bon, il est de mon avis que pour se réaliser, pour atteindre la finalité, il faut avoir atteint, faut être satisfait. Et ça s'oppose radicalement aux traditions chrétiennes et bouddhistes qui, eux, ont la méfiance au niveau du corps, de la jouissance, de la chair, de tous les désirs. Mais là, je parle bien du bouddhisme et du christianisme, et non de Bouddha et du Christ, qui, à mon avis, sont complètement différents de l'enseignement qui a été perpétré depuis près de 2500 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que c'est une très bonne chose que tu aies fait la distinction entre le Christ et le christianisme, et le Bouddha et le bouddhisme. Parce que les enseignements, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il est fort probable qu'ils aient été, non peut-être pas falsifiés, mais en tout cas retraduits ou réappropriés, et peut-être pas forcément de façon conforme à ce que
qu'ils n'ont pas écrit. C'est ça le problème de ces deux êtres. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas laissé de traces. Donc on interprète, et tous les gens après eux sont venus, ils n'avaient pas atteint l'état du Bouddha ou du Christ. Donc moi, je dis souvent, il y a trop de bouddhistes, pas assez de Bouddha. Trop de chrétiens, pas assez de Christ.
Mmh. C'est bien de souligner ça et de, encore une fois, de faire la distinction, parce que c'est trop sujet à confusion. Mmh.
Mais je pense aussi que les gens font leur propre définition de ce qu'est un Christ, de ce qu'est Bouddha. Et bien sûr, malheureusement, les gens vont se fier à ce qui a été écrit avant tout, avant de faire leur propre définition. Mm-hmm. Mais avant que tu puisses avoir un jugement concret par rapport au Christ, à Bouddha, il faut que tu te comprennes toi-même. C'est carrément... Je ne pense pas que Jésus aurait été Jésus et Bouddha aurait été Bouddha si ce ne serait pas compris, eux autres même. Ça aurait été très difficile de pouvoir avoir un impact comme ils l'ont eu. Sinon, personne n'en aurait parlé, là, personne.
C'est un principe simple qui est le semblable est connu du semblable. Mm. C'est pour ça que les premiers Amérindiens n'ont pas reconnu, ils ne voyaient même pas les explorateurs lorsqu'ils arrivaient parce qu'ils étaient inintelligibles, ils ne les comprenaient pas, ils ne savaient même pas que ça existait. Quand les bateaux sont arrivés, ils n'ont rien vu. Leur œil n'était pas prêt. Et c'est ça, je pense qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que l'état du Christ, c'est un état, on doit se faire Christ soi-même. On ne doit pas cheminer puis suivre l'enseignement de tous ces subalternes. Moi, j'en ai rien à foutre de l'Église parce que, franchement, elle se met entre Dieu et les hommes. Moi, je ne veux pas d'intermédiaire. Je veux être réalisé totalement. Donc, je ne tolère pas l'Église.
Moi, personnellement, comment j'ai comme réalisé que je suis mon propre voyageur. C'est parce que lorsqu'on a besoin d'aide ou qu'on est désespéré ou on demande en haut au ciel ou à Dieu ou à des guides ou des anges ou d'énergie. C'est comme donner un espoir comme dans le cosmos. Mais ce que j'ai remarqué, c'est dans le fond, on est notre propre ange, notre propre Christ, comme on disait, parce qu'on a choisi de venir ici, de faire ce voyage. Puis moi, je pense à prendre des sacrés outils pour arriver sur cette terre puis dire, OK, là, j'entame ça. J'entame cet apprentissage. Donc, oui, je crois que c'est dans ma nature et dans la nature de l'humain de vouloir prier, par exemple, quand on est un peu désespéré ou quand on demande quelque chose qu'on pense inaccessible ou impossible pour le moment présent. Mais je crois que quand on a besoin vraiment de solutions, de réponses, quoi que ce soit, on les a juste devant nous, parce que c'est en nous. Donc, il faut juste chercher un peu, puis surtout pas se jeter ou se garrocher sur quelque chose qu'on pense tout de suite qu'il y aura une réponse immédiate, une solution magique, parce que c'est simplement temporaire, moi, je pense.
C'est surtout, pour rebondir aussi à ce qu'évoquait Nicolas par rapport à la religion. La religion est dangereuse d'une certaine façon parce qu'elle a toujours placé à l'extérieur de l'humain les solutions. Et donc, que ce soit les religions, les systèmes politiques ou autres, c'est toujours la même mécanique. C'est-à-dire que, ne cherchez rien, on a la solution extérieure à vous. Et donc, c'est tellement pratique parce que comme ça, tu peux vendre n'importe quoi.
C'est ça.
Et notamment, tu peux vendre aux gens l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Et par rapport à ces idées, moi, ce qui m'a frappé par rapport à mon expérience en Afrique, c'était de voir comment la colonisation des esprits est bien peut-être encore plus pernicieuse aujourd'hui, parce qu'on croit que la colonisation officielle est terminée, mais non, elle continue et de façon beaucoup plus violente et pernicieuse, mais par le biais d'idées. Alors des idées qui sont véhiculées par le biais de la religion, qui est extrêmement présente, c'est-à-dire que quand on a la pauvreté, il y a la religion, et cette religion, elle est vraiment très très intense. Et on constate que tout ce qui est véhiculé par cette religion place les solutions hors de l'humain et place l'humain comme étant... c'est très paradoxal parce qu'il le considère comme étant, je ne sais plus quel est le terme, là, quand tu fais plein de pêcheurs, hein, c'est ça ?
C'est ça.
D'un côté, on te considère comme un pêcheur, puis de l'autre, on te considère comme n'étant pas capable de résoudre tes problématiques. Donc, il faut que tu ailles voir le parti politique, le gourou du coin ou je ne sais trop quoi. Et donc, ça marche très bien. Mais la pauvreté, elle fonctionne merveilleusement bien comme ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'état d'être avant tout. Et c'est vraiment une façon flagrante de déposséder quelqu'un que de l'empêcher d'aller en lui-même trouver ce que tu évoquais, Malika, à juste titre, que les solutions sont en nous et qu'on va chercher une pléiade d'anges, de ci, de ça, hors de nous, alors que, si ça se trouve, on est tout simplement à la fois l'ange, à la fois le Christ, à la fois la solution et à la fois le problème.
Oui, c'est parce que dans le fond, le grand motif de cette grande roulette-là de vendage-là, de religion-là, moi, je crois que c'est parce qu'on a un doute, parfois, à savoir si c'est réel ou pas, ces prières-là, ou ces genres de coïncidences-là, de dessiner le mystère, le mysticisme.
Mais tu sais que la religion, elle est inventée en même temps que la politique. Pour moi, c'est politique slash religion. C'est inventé en Sumer avec l'invention de l'écriture. Et encore dans plusieurs pays, la religion et la politique sont encore un. Ici, au Québec, ça ne fait pas longtemps que ça sépare. On est laïque, là. Ça fait même pas 100 ans. C'est incroyable, la religion est pour moi un système d'oppression et qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Quand on étudie la spiritualité, à travers le monde, il y a toujours ce même message. Je suis un avec tout. C'est quoi les religions? Ma religion est meilleure que la tienne, mon Dieu est meilleur que le tien, on n'est pas comme toi. Il y a toujours des divisions parce que c'est primitif à mon avis. C'est très primitif, la religion.
Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est le motif. C'est qu'on a un doute, on a une sorte... Les gens, des fois, ont certaines peurs parce que c'est intangible, on ne peut pas savoir. Fait que les gens, ils vont juste se rallier dans la religion pour... C'est comme une grande structure, tout est bien pensé. Puis comme ça, on mise sur ça, la peur des gens ou le doute. Et ainsi, c'est comme... Ça fait un super résultat, tu sais. Des fidèles qui ne pensent pas par eux-mêmes, malheureusement, qui sont influencés par des facteurs extérieurs qui manipulent cette peur-là, je crois. Et aussi qui, dans le fond, c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? Qui sont juste comme dans un cul-de-sac, parce que c'est de plus en plus... Moi, je trouve que la structure devient de plus en plus se rapetisse. À la fin, on est juste des pêcheurs. On va respirer trois grandes respirations de plus dans cette journée-là. On a pêché. Fait que...
Mais c'est drôle, parce que ce que tu étais en train de dire, mais ce qu'on est en train de dire depuis tantôt, va faire un bon écho à la chanson que je vais mettre, qui s'appelle « Marchand de bonheur » par le groupe Contrebande. Et vous allez voir ce que je veux dire. Et on vient après la pause avec le thème de l'émission, la satisfaction de tous les désirs fondamentaux et la seule voie de la réalisation. Alors, nous sommes de retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La satisfaction de tous les désirs fondamentaux et la seule voie de la réalisation ». On en a parlé beaucoup tantôt, là, le désir est très malmené là, par la religion, mais pas juste par la religion, hein, la psychanalyse. Freud, il a approché, lui, les désirs d'une pulsion entourée de symboles pathologiques. Alors, le désir, c'est la grosse bête noire de notre civilisation, alors que pour moi... Pourquoi on se réincarnerait? Parce que c'est parce qu'on n'a pas satisfait tous nos désirs. Je pense que c'est ça la racine. Alors que quand on atteint un état de réalisation, la réalisation, c'est que tu n'as plus de désir. Tu n'as même plus le désir, comme le Bodhisattva ou le Bouddha réalisé, de revenir pour sauver parce que ça n'a plus aucune importance. Et je pense que la satisfaction, c'est un état de paix totale. Il n'y a plus rien à faire. toute évolution est ridicule. Je suis rendu au sommet de moi-même. Donc, pourquoi évoluer? Pourquoi? Il y a un constant changement sur la Terre, c'est normal, mais pour moi, l'évolution est ridicule. Et c'est parce que moi, mes désirs, je les assouvis depuis toujours. Je n'ai jamais mis mes désirs de côté pour faire plaisir aux autres. J'aimais la bande dessinée, j'aimais l'art. J'ai dit, je fais ça à 100%. Allez donc tout voir ailleurs si vous n'êtes pas content. Et puis, bon, beaucoup de gens sont sortis de ma vie, mais beaucoup d'autres sont restés aussi. Et ceux qui restent, mais c'est, ils sont conscients que j'ai de la vocation. Parce que moi, les désirs, c'est important.
Sauf que dans notre société, les désirs, ils sont fabriqués. Ils te sont fabriqués, c'est-à-dire qu'ils sont même préfabriqués pour que les individus puissent avoir des désirs. Et ce sont souvent des désirs qui sont complètement associés au matérialisme.
Ou des besoins. Dans ce cas-là, c'est un besoin.
Oui.
Pour moi, il y a une différence entre le besoin et le désir. Le désir est sain, mais le besoin... Et encore là...
Les désirs sont transformés pour que ce soit pour que tu aies besoin de consommer X ou Y dans l'idée que tu puisses satisfaire tes désirs. Mais en fait, c'est complètement biaisé l'histoire. Mm-hmm. Puisqu'on va superposer à ton désir initial, on va le remplacer par l'acquisition de telle ou telle chose pour satisfaire ce désir, mais en fait on a transformé ton désir, on t'a emmené sur un autre chemin pour que tu puisses satisfaire un besoin qui n'est pas vraiment le tien.
C'est pour ça que dans le thème c'est bien défini comme étant les désirs fondamentaux. Moi je parle pas des désirs au premier niveau. Quelqu'un qui a des désirs de beignet là, qui va manger, qui va assouvir ses désirs, ben il va être malade. Faut pas être stupide non plus, c'est ça, il faut avoir de l'intelligence. Donc, les désirs fondamentaux, c'est quoi? C'est le bonheur, la paix, se faire aimer, c'est des choses qui ont rien à voir avec le capitalisme et le mercantilisme.
Alors, ça a quelque chose à voir dans le sens où on veut te faire dévier de ça. Et là, la relation avec tes besoins fondamentaux et puis tes désirs, c'est-à-dire qu'on va, encore une fois, avoir une société qui va te fabriquer des nouveaux désirs pour t'éloigner de ce qui va te en fait ce qui va faire ton être, ce que tu as besoin. Toi tu vas dire moi ce que je veux c'est du calme, du repos, du bien-être, et puis le mercantilisme va dire écoute mon gars, il faudrait peut-être bien que tu changes ta voiture et puis que tu aies une belle maison, parce que si t'as pas une belle maison et puis une belle voiture, t'es quand même un raté dans la vie, quoi. Et c'est ça le truc. Et donc la personne va oublier que lui son besoin c'est d'être tranquille dans son champ ou de faire son jardinage, et puis il va dire ah non, en final ce serait bien que j'ai une belle voiture puis une belle maison. Et en fait ça pourrait se caricaturer à ça.
C'est même le même système, très similaire à ce qu'on parlait dans la première partie de l'émission avec la religion. C'est le même système.
Oui.
C'est biaisé, puis on crée des nouveaux... c'est des illusions, dans le fond, puis on se perd.
Mais c'est pour ça, tantôt, je parlais de politique, /, religion. Pour moi, c'est un concept. C'est la même chose.
Ça, exactement.
Pour pas s'éloigner de ses besoins fondamentaux, je pense vraiment que ça part de l'enfance. Depuis que tu es jeune, tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux et qu'il n'y a aucune influence extérieure qui va venir t'arracher ça, ça va rester. Parce qu'arrivé à 30 ans, que ton voisin ait une BM, ça ne va rien faire. Tu vas continuer à vivre et tout. Là. Mais c'est tellement difficile parce que l'influence, elle est forte. Puis pas juste au niveau... social, mais aussi personnel. Tu vas même te questionner des fois, est-ce que je devrais? Est-ce que c'est vraiment... On se met une propre barrière, mais on ne devrait pas, parce que je sais qu'est-ce qu'il me faut pour être heureuse, mais l'extérieur, c'est très, très difficile, surtout en tant que femme. Tu n'as pas d'enfant, c'est rendu... c'est grave, là. Tu ne veux pas porter un enfant, c'est très grave, mais c'est pas quelque chose que toutes les femmes doivent se faire. C'est pas un désir fondamental de chaque femme d'avoir un bébé, mais la société va faire en sorte que, écoute, c'est pas normal. Tu veux pas vivre l'expérience maternelle?
Qu'est-ce qu'il y a de... What's wrong with you? Genre,
c'est ça. C'est comme...
Qui cloche pas?
Ben oui. Moi, quand je me suis fait vasectomiser, ma mère, elle m'a dit « T'es égoïste? » C'est bien. OK, mais je pense qu'il y a assez d'enfants présentement sur la Terre. Là, on est en surpopulation... Si moi, j'en fais pas, c'est pas plus grave que ça. J'ai une œuvre. Mes sœurs sont des pondeuses. Donc, il y en a des enfants dans ma famille.
Beaucoup de choses aussi qui sont misées sur la culpabilité. On a tellement des êtres qui sont ouverts à la culpabilité. Puis tu parlais avec Pascal que depuis qu'on est enfant, on sait ce qu'on veut, quand on veut, puis on l'a. Mais c'est là que je crois que c'est là que ça commence vraiment la grosse source de savoir la culpabilité, la relation des parents, la relation des influences de l'extérieur. C'est là qu'on a des messages jusqu'à l'âge de 40 ans parfois, 45 ans. C'est être à l'écoute, je pense. Puis en passant, Nicolas, que tu as fait ton nouveau livre, qui s'appelle Le Grand Silence, ben je vais prendre ce grand silence-là, cette phrase-là, le titre de ton livre, dans le fond, pardon, pour simplement dire que si, par exemple, vous voulez simplement vous reconnecter à ce que vous avez vraiment besoin ou ce que vous désirez, c'est aller dans le grand silence, le silence. Ça prend du temps, même les gens sont très impatients dans le silence parce qu'il ne se passe rien.
Ils sont comme mal à l'aise.
Les phrases vont venir dans la tête comme une chanson. Là. Puis là, jusqu'à temps, ça c'est là. Moi je pense que c'est une des premières étapes. Le petit message enregistré va venir. Puis après, le silence, le vrai silence, va s'installer. Quand la machine n'est pas en mode pause, n'est pas en truc de stop, elle est juste déconnecté avec toi. C'est comme tu es le tout et c'est là que tu peux vraiment apprécier le silence.
Et vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, l'enfance. Et l'enfance est souvent un éteignoir de désir si vous avez des parents chrétiens qui vont vous dire touche-toi pas. Là. Tu sais, les enfants, je pense que c'est normal de se toucher puis de jouer au docteur avec son frère, sa soeur, avec les petits voisins, les petites voisines. Mais d'ici dès l'enfance, les parents qui sont chrétiens, qui, eux, ont ce répugnance pour la chair,
ils vont
tout de suite, c'est sale, touche-toi pas, fais pas ça. C'est pernicieux. C'est dès l'enfance. Et ça, c'est difficile d'enlever ces programmes-là. Mm-hmm. J'ai tenté, moi, je les ai enlevés, mais ma mère revenait dans mes rêves. Mm-hmm. J'avais ma cousine, je voulais baiser ma cousine. Moi, j'avais aucun problème. Ma mère vient, non, on fait pas ça dans la famille. Je dis, c'est mon rêve, là, mêle-toi dans tes affaires. J'avais assez de présence d'esprit pour la mettre à sa place, mais la majorité des gens ne le fera pas. Et c'est là le danger. Comment tu veux te réaliser? Et là, on parle de réalisation. La majorité des gens sur la Terre ne vont pas se réaliser.
Oui, c'est vrai.
On parle d'un petit pourcentage de gens qui veulent en finir être tout, être un tout. Et ça, c'est très rare de toute façon sur la Terre. Donc, quand on parle de réalisation, il faut revenir à cette exception. La majorité des gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec leurs désirs ou leurs besoins. Mais ceux d'entre vous qui sont obsédés par l'idée d'être en état d'illumination, prenez au sérieux ce qu'on dit aujourd'hui. Suivez vos désirs. Laissez-les vous mener au bon endroit, au bon moment. En se bloquant, en se censurant, on n'est jamais au bon endroit, au bon moment. Ton cœur te dit « va là, cette femme-là, c'est pour toi ». Ou cette situation, tu le fais pas, tu bloques l'énergie.
Mm-hmm. C'est vrai, ça.
Puis comme on parlait aussi de plus en plus dans une conversation, on parlait que le Québec est le nouveau Tibet. Donc, je trouve qu'on est quand même dans un lieu géographique qui fait en sorte qu'on a le temps de prendre notre rythme, d'aller dans notre élan, tu sais. C'est comme on a déjà dit, on a tous les outils. Fait que c'est tout simplement comme t'as dit Nicolas de vraiment c'est pas de faire ça en une shot, hein, on s'entend. Comme vous pouvez nous écouter chaque semaine un petit peu puis c'est faire ces choses-là un petit peu parce que c'est comme ça que ça va durer. C'est comme ça que on va se réaliser. Si on veut, parce que j'ai pas aimé par exemple le mot si on est obsédé à vouloir en finir ou à être dans la lumière, tu sais. Si vous êtes obsédé ou dans l'obsession, vous êtes en détresse, c'est là que, tu sais, votre énergie que vous avez bloquée tellement maintes fois, là, elle vous crie, c'est ça. Pourquoi je suis autant obsédée? Pourquoi je suis en détresse? C'est parce que cessez de bloquer cette énergie-là. Elle vous parle, c'est votre amie.
Mais en parlant d'obsession, on va finir l'émission là-dessus. C'est, moi, il y a l'aspect aussi négatif des obsessions, mais si on le passe au deuxième niveau de la pensée, c'est que on y pense toujours. À chaque instant, moi, je pense à l'éternité. À chaque jour, j'y pense, j'écris sur le sujet, on en parle dans les émissions, dans tous mes projets. Donc, tout ce que je fais me ramène sans cesse. Donc, je suis obsédé dans un bon sens. C'est ça que je veux dire, moi. Mais oui, il y a l'obsession des beignets qui peut te tuer. Et ça, c'est courant aujourd'hui.
L'excès, c'est ça.
L'excès. C'est ça. Mais l'excès peut mener à la perfection aussi. On sait que les grands maîtres sont des obsédés ou des explorateurs, les gens qui vont aller sur la Lune. Ça prend une obsession hallucinante pour faire des grandes choses. Donc, il faut toujours aller
gérer
dans la
son
subtilité.
Excès, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ouais. Gérer son excès. Ça,
la maîtriser. Ouais.
Je pense même que c'est salutaire.
Oui.
C'est salutaire d'avoir des excès. C'est salutaire de se ramasser.
Ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas apprendre ses excès.
C'est surtout de ne pas le transformer en autre chose.
On vous souhaite tous de satisfaire vos désirs fondamentaux cette semaine. Puis de revenir surtout à la prochaine émission, sans excès de beignets. Et puis, on vous invite à venir écouter l'émission en podcast sur Radio H2O ou la réécouter sur propossurlebonheur.com. À la semaine prochaine.
Dans une bouteille, hey! N'oublie pas que je suis là, le soleil.